Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier.
Quels sont les fondements psychologiques du bonheur? On va en parler avec quelqu'un qui s'y connaît en psychologie. Rosemarie Charest, psychologue clinicienne. Elle a été présidente de l'Ordre des psychologues de 98 à 2015. Madame Charest, bienvenue en studio.
Ça fait plaisir.
Quand je vous dis le mot bonheur, vous pensez à quoi?
Écoutez, j'ai entendu un bout de votre émission, j'ai entendu tellement de belles choses. Mais le bonheur, c'est un état général, c'est un grand projet à l'intérieur duquel il n'y a pas que de la joie. Il n'y a pas que des choses faciles. Et votre chercheuse disait, on fait cette émission-là malgré qu'on traverse une période difficile. Oui. Et je disais, vous faites bien. Parce qu'on va pas attendre que ça aille bien pour être heureux.
Est-ce que le bonheur, c'est l'absence de malheur?
Non. Même le malheur est inclus dans le bonheur si on est capable de voir le bonheur comme un projet à très long terme. Vous savez qu'en psychologie, on a identifié deux gros facteurs. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui ressortent beaucoup. C'est la qualité des relations interpersonnelles et le fait d'avoir des projets. Pourquoi? Parce que quand votre vie est inspirée par un projet, il peut y avoir une journée qui va mal, il peut y avoir un événement dramatique, mais il est à l'intérieur de quelque chose de plus grand. Si votre bien-être ne réside que dans... Puis tout le monde dit le moment présent, puis c'est vrai que moins on s'en fait avec l'avenir, puis avec le passé, puis mieux c'est. Mais le moment présent à lui seul ne peut pas vous rendre heureux. C'est le moment présent à l'intérieur de quelque chose de plus grand.
Mais je recule la cassette un peu. Vous m'avez dit, Mme Charest, que bon, il y a les projets et il y a la qualité des relations interpersonnelles. Ouais. Et tantôt, Maude Goyer était là en début d'émission,
ouais,
nous en parlait, basée sur une étude fantastique de l'Université mm-hmm. Harvard, des milliers
terme.
De personnes oui. étudiées pendant 8 mm-hmm. décennies. La recette, là, le fondement, ce serait ça. C'est la qualité des liens avec les autres. Ça me semble quasiment trop simple.
Ouais. Puis là, je vais jeter peut-être un pavé dans la mare. C'est que quand on est heureux, c'est facile d'avoir des bonnes relations. Quand on a des bonnes relations, ça contribue au bonheur. Donc, il y a un cercle là-dedans. La question est de savoir qu'est-ce qui est sous notre contrôle et qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, quand il y a un cercle quelconque du jour au monde, regarde ce qui est là devant toi et sur quoi tu as un certain pouvoir. Et on a un certain pouvoir sur la qualité de nos relations interpersonnelles. J'entendais la chanson de Félix Leclerc, « Un petit bonheur que j'avais ramassé ». Prenez juste ça. Le petit bonheur était là. Et je l'ai ramassé. Il faut toujours qu'il se passe deux choses. Il y a quelque chose dans l'environnement, il y a quelque chose dans la personne, et le croisement entre les deux va créer le bonheur.
Catherine?
Ben, je suis curieuse de savoir, parce qu'il y a des gens qui, parfois, peuvent être très négatifs dans la vie. Est-ce que ça s'apprend à tourner les choses de bord, puis de voir la vie, mettons, avec un peu plus de lunettes roses ou de la voir d'une façon plus positive, dans le fond?
Oui, ça s'apprend, mais à un moment donné, la personne doit faire une prise de conscience parce qu'elle doit désirer l'apprendre. Elle doit désirer l'apprendre parce qu'un jour, elle doit réaliser que c'est pas le monde qui tourne mal pour elle, que ça joue à deux. Il y a des événements négatifs, puis il y a des gens qui ont des vies plus difficiles que d'autres. Là.
Faut,
je suis pas en train d'être à l'eau de rose ici. Là,
ouais, ouais.
Mais il y a des gens qui interprètent tout de façon plus négative que d'autres. Et on a besoin, à un moment donné, de leur en faire prendre conscience pour qu'ils réalisent que peut-être qu'ils prennent la partie pour le tout. Peut-être qu'il y a un événement négatif. Vous savez, on a chacun a son histoire. Il y a personne qui a eu des parents parfaits. Il y a personne non plus qui a les enfants parfaits, la job parfaite, les amis parfaits. Mais il y a des gens, à travers tout ça, qui sont capables de voir ce qu'il y a eu de bon, malgré tout, qui ont la synthèse plus facile.
Chez les gens, Rosemarie Charest, qui défilent, qui ont défilé dans votre cabinet de consultation.
En 40 ans.
Le plus gros obstacle au bonheur, qu'est-ce que vous avez constaté que c'était?
Ben, c'est beaucoup la capacité d'interpréter ce qui se passe justement à l'intérieur d'un tout, plutôt que de se fixer sur un événement dramatique dont on ne doit pas nier la douleur. Là, il ne s'agit pas ici de dire « fais comme si tu avais pas mal ». Non, t'as mal. Il faut reconnaître ça d'abord. Mais qu'est-ce qui existe d'autre? Et l'autre chose que je vous dirais qui est très importante au niveau des relations interpersonnelles, les gens, je vais tourner votre question à l'envers, les gens heureux que j'ai vus, c'était des gens qui étaient curieux. Qui étaient curieux des autres aussi, qui s'intéressaient aux autres. Et je peux vous dire, pour avoir fait de la clinique pendant 40 ans, il n'y en a pas deux pareils. Il n'y a pas deux êtres humains pareils. Même quand ils ont le même diagnostic, même quand ils sont au même niveau socio-économique. Juste ça, là, ça devrait faire en sorte qu'on est curieux puis qu'on est intéressé aux autres. Parce que chaque personne a une histoire intéressante.
Pourquoi vous pensez que la curiosité, c'est un des points communs des gens heureux?
Ah oui, parce que ils ont envie de connaître. La vie est intéressante quand vous avez envie de connaître quelque chose. Et ils sont des vrais contacts avec les autres. Ils vont rencontrer quelqu'un, pas pour lui montrer qui ils sont, ils vont rencontrer quelqu'un pour connaître qui il est. Et nécessairement, dans toute relation interpersonnelle, il y a trois territoires. Le mien, celui de l'autre, celui qu'on construit ensemble. Si je m'intéresse à l'autre, il a envie de construire sur ce territoire-là, lui aussi. On est deux pour construire un territoire intéressant.
Vous l'avez dit, Rosemarie Charest, 40 ans à être psychologue, à écouter les histoires des gens. Est-ce qu'il y a des époques où les gens sont plus heureux que d'autres époques où ça n'a aucun rapport?
Ben, tout le monde n'est pas heureux ou malheureux à la même époque. Vous savez, on pourrait penser que les gens sont heureux au printemps, sont malheureux à l'automne. Bon, il y a des tendances comme ça, mais il y a des gens pour qui le printemps est très difficile. Il y a des gens pour qui les moments où tout le monde semble heureux, Noël, l'été, c'est les moments les plus difficiles pour eux.
Ça leur rentre dedans.
C'est comme s'il y avait l'obligation d'être heureux cette journée-là. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on est heureux, mais il y en a qui sont liés à la relation interpersonnelle, on en a parlé. Il y en a qui sont liés aussi à la capacité de se réaliser, de s'accomplir. Le travail, là, faut arrêter de présenter le travail juste comme une source de malheur. C'est une source de bonheur, le travail, dans la mesure où ça permet de se réaliser aussi.
Et là, vous parlez des époques dans nos vies, mais si on compare, disons, les décennies, je sais pas, vraiment là, est-ce que les gens dans les années 80 étaient plus heureux que dans les années 2000?
J'aurais pas de réponse à ça. Non, je peux pas répondre. Je dirais que dans les années 2000, probablement que notre attente par rapport au bonheur est plus grande. On s'attend à être heureux. Fait que quand on l'est pas complètement, c'est plus dramatique que ça l'était il y a 40 ans.
Ouais.
Je dirais que ça a changé.
Ben, il y a ça, puis même, tu sais, le métier de psychologue, je veux dire, est devenu de plus en plus important avec le temps, mais si on se ramène aux années 60, c'était pas commun, là, d'aller voir un psychologue. Là, les gens pensaient que les gens étaient fous s'ils allaient voir un psychologue. Puis là, ça a été démocratisé. Ouais. Est-ce que, j'imagine qu'il y a une certaine époque où les gens gardaient plus les bébites en dedans.
Oui, sûrement de ça, on en a plus parlé. Les gens ont plus mis des mots sur ce qu'ils ressentaient, ont plus accepté d'aller voir à l'intérieur d'eux. Parce que venir consulter en thérapie, là, c'est accepter que j'y suis pour quelque chose dans mon bien-être, dans le sens de ma vie. C'est arrêter de penser que j'ai été chanceux ou malchanceux, que je souhaite que ça arrive ou non. Donc, c'est déjà une conscientisation que la société a faite davantage que les individus aussi. L'autre chose que je peux pas ne pas dire, c'est à quel point c'est pas une perte de temps que de prendre soin de soi. Parce que le bonheur, c'est contagieux, comme le malheur. Des enfants qui vivent dans des maisons où les parents sont heureux ont plus de chances de devenir heureux que ceux qui vivent dans des maisons où les parents sont malheureux, quelle que soit la bonne volonté. Fait que moi, quand je vois des parents dire « Ah, moi, je donne tout à mes enfants », je dis « C'est pas une bonne idée. Gardez quelque chose pour vous. Faut qu'ils vous regardent puis qu'ils disent « Ah, j'ai hâte de devenir adulte parce que ça a l'air le fun d'être adulte. »
Je vous écoute et je pense que c'est Sartre qui avait dit que l'enfer, c'était les autres, mais je pense que le paradis, c'est les autres.
Le paradis, c'est les autres aussi. Et l'isolement, c'est l'enfer aussi, qui est différent de la solitude. Oui. Parce que les gens heureux sont capables de vivre seuls, sont capables d'assumer leur solitude. C'est différent de l'isolement où là, il y a une coupure dans la relation avec les autres.
Vraiment intéressant. Merci d'être venue nous voir en studio, Rosemarie Charest.
Ça m'a fait plaisir, ça contribue à mon bonheur.
Je suis tellement contente, Patrick, de l'avoir rencontrée. Ça fait plusieurs fois que je la vois puis que je l'entends, puis je l'avais jamais vue en vrai, Madame Charest.
C'était Rosemarie Charest, psychologue clinicienne et ancienne présidente de l'Ordre des psychologues du Québec.
Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
On le sait, là, Airbnb fait débat, fait controverse au Québec, là. Et ça remonte à avant, pardon. Avant l'incendie qui a fait un mort et quelques disparus dans le vieux Montréal, notamment l'impact sur, par exemple, le parc locatif dans les quartiers et dans les villes. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a dit à Paul Arcand ce matin que le gouvernement, par exemple, va obliger l'affichage d'un numéro d'enregistrement sur les fiches Airbnb. Écoutez, on peut quand même être sceptique présentement. Même dans les zones où vous n'avez pas le droit de louer des Airbnb à Montréal, vous pouvez le faire en toute impunité. Il n'y a pas vraiment de risque de se faire sanctionner. On va tout de suite parler avec Benoît Clerc, qui est journaliste en Californie. La Californie qui a, une approche un peu différente avec Airbnb. Bonjour Benoît.
Bonjour Patrick Legacy.
Et quelle est l'approche des Californiens face à Airbnb?
Alors écoutez, ça a été compliqué. C'est une histoire qui remonte à 2015-2016 quand Airbnb a démarré. Et j'écoutais votre ministre du Tourisme, Caroline Proulx, ce matin chez Paul Arcand. Effectivement, elle est en train de prendre la mesure du problème et des soucis que Airbnb crée dans les communautés. Ça a commencé par San Francisco, puis par Los Angeles. Et une gentrification s'est créée autour de ces villes, poussant les gens à louer des maisons de plus en plus chères. Et à surtout à les mettre sur le marché pour Airbnb. Alors, à la différence de ce qui se passe à Montréal, où il y a, d'après ce que j'ai compris, une guerre, un ping-pong entre Montréal et Québec sur qui doit donner les autorisations, qui ne doit pas les donner, comment faire respecter le fait que 92% des Montréalais n'ont pas d'autorisation pour louer des Airbnb, bien écoutez, je vais vous donner la solution, elle vient peut-être ici de Californie, c'est que le gouvernement de Californie, donc au niveau de Sacramento, a décidé de laisser la responsabilité de la gestion des Airbnb au comté. Au département. Alors je vais prendre l'exemple, si vous voulez, pour qu'on soit très concret, du plus grand département des États-Unis, c'est le comté de San Bernardino, qui est à l'est de Los Angeles, où il y a, et c'est un petit peu historique, il y a un chiffre énorme, puisqu'en 2020, on comptait 3800 bed and breakfast, et maintenant, en 2022, il y en avait 4200, donc un peu plus de 500. Et pour ces 3800 Airbnb, il y avait 4 inspecteurs. Ça veut dire que dans tout le comté, il y avait 4 personnes qui étaient chargées de traiter 950 Airbnb chaque année, autant dire mission impossible, puisqu'il fallait aller voir ces Airbnb, il fallait les inspecter, il faut être sûr qu'il y avait des gicleurs, des détecteurs d'alarme, de l'eau et des services de sécurité d'incendie notamment qui soient irréprochables, pour ne pas connaître le genre de tragédie que vous avez connue en direct. J'écoutais ce matin Philippe Bonneville chez Paul Arcand pour cette histoire de ce building du Vieux-Montréal. Eh bien là, les choses ont été prises en main de manière très drastique par les superviseurs du county de San Bernardino qui ont multiplié par 2 le nombre d'inspecteurs. Alors vous allez me dire, ça reste encore 525 Airbnb par inspecteur pour chaque année. Il faut savoir que pour avoir un permis ici en Californie, il y a entre 7 et 9 mois d'attente, donc c'est très très long. Et que surtout, à la première infraction, c'est $1000 d'amende. À la deuxième infraction, c'est $2000 d'amende. À la troisième infraction, c'est $5000 d'amende. Et surtout, l'interdiction pendant 1 an de gérer son Airbnb. Donc c'est une perte sèche pour les propriétaires qui, à ce moment-là, effectivement, n'ont plus de recours. Et donc, la loi est fortement appliquée. Les prix des permis ont doublé en 3 ans. C'est vrai que c'est beaucoup plus cher, mais en tout cas, la loi est respectée. Et je peux vous dire que les gens font attention parce qu'ils savent que les sanctions sont drastiques et on n'a pas besoin de s'asseoir autour d'une table parce que Airbnb a été obligé par le gouvernement de chacun des counties américains et maintenant c'est au niveau fédéral. Airbnb est obligé, n'a pas le droit de publier un listing sans le numéro d'autorisation de la location. Ça veut dire que si vous n'êtes pas autorisé, si Airbnb ne prend pas votre listing et votre maison à louer, vous n'existez pas purement et simplement sur le marché.
OK. La sanction, est-ce qu'elle est imposée aux gens qui veulent louer un logement via Airbnb ou est-ce qu'elle est imposée à Airbnb?
Alors, elle est imposée aux deux. Aujourd'hui, Airbnb est autant responsable que le propriétaire qui n'aurait pas l'autorisation. Mais Airbnb a prévu les choses. Alors, Airbnb a eu un problème. Vous le savez, il y a environ 2 ans, ils ont licencié au moment de la crise Covid. Il n'y avait plus de location Airbnb puisqu'il était interdit de louer des Airbnb. Mmh. Donc, ils se sont séparés d'environ 800 personnes au niveau du siège social de Airbnb à San Francisco. Ça a été un petit peu cataclysmique parce qu'effectivement, à partir de ce moment-là, ils ne pouvaient plus rien gérer. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont passés à travers les mailles du filet et puis qui ont pu continuer. Mais ça y est, la situation est revenue à la normale maintenant, et je peux vous dire, je l'ai vérifié encore ce matin en préparant l'émission avec François Arnois, et les gens aujourd'hui ne peuvent plus poster un listing sur Airbnb s'ils n'ont pas l'autorisation du county. C'est très très clair, c'est très ferme, et les sanctions sont tellement lourdes que personne ne prend le risque, et je pense que c'est un conseil. Quand Caroline Proulx disait qu'elle allait s'asseoir très bientôt avec les gens de Airbnb Canada, et bien effectivement, elle a raison de le faire, parce que Airbnb est très prudent aussi maintenant, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de payer des amendes qui sont colossales, et ça, le système va se resserrer et probablement revenir à des choses beaucoup plus normales dans les semaines et dans les mois qui viennent.
Mais Benoît Clair, si je comprends l'état des choses, là, et vous êtes de Californie, vous êtes documenté sur ce qu'on fait au Québec. Au Québec, on a des lois, on a des règlements, mais on ne les applique pas. Les Californiens ont des lois et des règlements, mais ils les appliquent.
Ben oui, parce qu'on n'a pas le ping-pong, le fameux ping-pong Montréal dont parlait Montréal-Québec, dont parlait Paul Arcand ce matin. Il n'y a pas de ping-pong, il n'y a qu'une seule entité qui dirige, et c'est une entité qui est extrêmement libre, entre guillemets, les inspecteurs du code enforcement du county de San Bernardino ou celui de Los Angeles. À Los Angeles, par exemple, vous avez une autre règle. À San Francisco, c'est pareil. Si vous avez un appartement avec juste une chambre, vous n'avez pas le droit de louer un Airbnb. Si vous avez un appartement avec 2 chambres, vous avez le droit de louer une chambre, mais le propriétaire doit être dans la première chambre, doit dormir dans l'appartement. Donc les gens ne sont pas forcément enclins à louer un appartement dans lequel le propriétaire est là et dort en même temps, ronfle peut-être avec les locataires. Donc en fait, les lois sont très très précises et très strictes, elles sont appliquées. Donc je pense que si la Californie, qui est un pays de près de 70 millions d'habitants, arrive à faire imposer des règles comme ça, je suis absolument persuadé qu'à Montréal, entre Montréal et Québec, on va finir par trouver un arrangement et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais j'étais consterné quand j'ai vu que 92% des Montréalais n'avaient pas d'autorisation. Je me suis dit, non, mais ça ressemble pas au Québec. Les gens ne sont pas illégaux à ce point-là.
Écoutez, l'appât du gain, mon cher Benoît, l'appât du gain.
Peut-être, oui.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, Patrick, à bientôt.
Salut, c'était Benoît Clair, qui est journaliste en Californie. Et tantôt, quand j'ai fait mon coup de gueule en début d'émission, je vous disais qu'on dirait que les gouvernements sont un peu intimidés par tout ce qui est nouvelle économie, par les applications. On l'a vécu avec Uber, rappelez-vous. Moi, je suis pas contre Uber, je suis pas contre la technologie. Je concède que les taxis à Montréal avaient un sacré problème de service à la clientèle. Et toutes sortes d'autres problèmes. Cependant, ce qu'a fait Uber à Montréal, au Québec, ailleurs dans le monde, c'était le même plan de match. C'est, on le sait qu'on est illégaux, on va rentrer, on va casser les marchés, on va casser les prix pour s'imposer. Et un peu partout, les gouvernements ont eu de la misère à vraiment là se réveiller et réglementer Uber. C'était une nouvelle patente et fallait pas être contre le progrès. Littéralement, les libéraux de Philippe Couillard disaient « Ah, écoutez ça, les jeunes aiment ça, Uber, là. Il y a comme un choc générationnel. » Il n'y a pas de choc générationnel. C'est une nouvelle entreprise. Puis t'es supposé de la réglementer comme les autres entreprises. C'est ça que t'es supposé de faire comme État. La semaine passée, on a reçu Martin Patriquin, journaliste, qui participe au documentaire qui est disponible sur Netflix sur l'industrie de la pornographie sur Pornhub. Pornhub appartient à une compagnie qui est basée à Montréal, se fichait complètement que des usagers téléchargeait sur son site des scènes de pornographie amateurs qui avaient été filmées, là, disons, des personnes qui avaient été filmées à leur insu, d'une part. D'autre part, on se fichait complètement du fait que tu as des jeunes victimes mineures qui avaient été violées, parce que quand t'es pas consentant, quand t'es mineur, même si ça a l'air consentant, c'est un viol. Les images restaient là à perpète. Les victimes se plaignaient des années après, ça partait jamais. Il a fallu que les gouvernements fassent des menaces. Il a fallu que le New York Times enquête. Il a fallu que les responsables de cette nouvelle technologie soient convoqués dans des parlements pour s'expliquer, pour qu'enfin ça commence à changer. On le voit avec Facebook, Google. Il y a un projet de loi à Ottawa pour forcer certaines réglementations sur les Facebook, Google et compagnie, notamment payer les médias pour le contenu qui tient les gens rivés sur leur téléphone, sur les applications. Ça a pris des années pour le faire. L'Australie l'a fait. Google avait menacé Facebook aussi de fermer les livres dans ce pays-là. Ils l'ont pas fait. Arrêtez d'être intimidés parce que c'est de la nouvelle économie, parce que c'est numérique. Ce sont des entreprises qui doivent être réglementées. Personne n'est contre le progrès, mais arrêtez de leur donner une free pass comme à Airbnb.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Il y a d'anciens locataires du bâtiment incendié dans le Vieux-Montréal là, qui ont dénoncé ces derniers jours le comportement du propriétaire qui s'appelle Émile A.M. Benamour. Plusieurs prennent la parole depuis l'incendie et ça recoupe des informations qui ont été colligées aussi par les journalistes auprès de ce qu'on appelait avant la régie du logement, le tribunal administratif du logement. Catherine Joyal est une des locataires qui a pris la parole ces derniers temps dans le journal Le Devoir et aussi sur sa page Facebook. Elle a résidé dans ce bâtiment du Vieux-Montréal pendant 3 ans. Elle est en studio. Catherine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci de m'avoir.
Écoutez, d'abord, expliquez la chronologie. Vous avez habité dans ce bâtiment-là de quelle année à quelle année?
J'ai habité là de 2009 à 2012, donc presque 3 ans. C'était 2 ans et plusieurs mois.
OK. Donc, quand vous êtes arrivé là, peu après, il y a eu un changement de propriétaire.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez noté comme changement, disons, dans la bâtisse?
L'ancien propriétaire, c'était comme un vieux monsieur qui avait eu le bâtiment pendant vraiment longtemps. Il venait chercher les loyers, tu sais. Il n'y avait pas de stress, il n'y avait aucun conflit avec les locataires. Et puis là, une fois que Émile Benamour a acheté le building, le climat a complètement changé. C'est-à-dire que à partir du premier mois où il est arrivé, il a commencé à avoir un climat de peur, comme je disais dans Le Devoir ce matin. Il y avait beaucoup d'intimidation qui se faisait de sa part, du harcèlement même. Et je pourrais comme donner beaucoup d'histoires.
Ben, mais... Justement, vous parlez d'intimidation, de harcèlement. Donnez-nous quelques exemples.
Bon, il avait l'habitude de rentrer chez nous à 6h, 6h30 du matin.
Dans les appartements.
Dans les appartements, sans préavis. Alors, il rentrait, tu sais, il ouvrait la porte avec la clé parce que les propriétaires ont la clé. Il rentrait et puis là, il se mettait à crier, tu sais, comme « qu'est-ce que tu fais là? T'es pas supposé être là. C'est à moi la bâtisse, tu dois partir. » Et puis, il s'est même déjà assis sur le bord du lit. Alors que,
pardon?
Oui, assis sur le bord du lit.
Il est rentré dans votre chambre, c'était assis sur le bord du lit.
Oui, oui, en criant.
Mais, OK, donnez-moi le contexte. Là, je veux dire, le propriétaire est là, il rentre, c'est le nouveau propriétaire, mais vous avez un bail qui est valide.
Mais oui. Oui, oui, c'est ça le pire, c'est que on n'était pas des locataires qui étaient comme à problème ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'il y avait qui que ce soit dans le building qui ait été à problème. Tout le monde payait son loyer, tu sais, tout le monde était bien tranquille. Et puis comme je te disais, Patrick, tout à l'heure, c'est que...
Hors des ondes.
Hors des ondes. C'est que le building, en fait, c'est un peu le dernier endroit dans le Vieux-Port où il y avait encore des gens normaux qui habitaient là. Tu sais, c'était pas des gens très riches, c'était pas des touristes. Tu sais, il y avait des ouvriers, il y avait des aînés, il y avait des artistes aussi, tu sais. Et puis, tu sais, ça donnait un peu une micro-communauté, si on peut dire.
Catherine, expliquez aux gens qui nous écoutent la saga des détecteurs de fumée. Il y a des employés du nouveau propriétaire, là, M. Benamour, qui sont venus installer dans les unités de logement des détecteurs de fumée. Dans votre cas, c'était où?
Dans mon cas et dans le cas de mon voisin, il était venu installer les détecteurs de fumée juste à peut-être un pied du four. Fait que sur le mur qui était adjacent au four, il a installé, l'employé de Benhamor a installé les détecteurs à un pied du four. Alors là, évidemment, tu sais, ça fait aucun sens. Dès que la personne va cuisiner, le détecteur va partir. Et puis, c'est pour ça que, à ma connaissance, je sais que nous, on l'avait enlevé et mon voisin l'avait enlevé parce que c'était comme la continuation de la guerre psychologique que Émile Benhamor nous faisait vivre.
Cette histoire de détecteur de fumée installé au mauvais endroit pour qu'il parte tout le temps, pour vous, c'était pas un hasard?
Non, absolument pas. Mais non, tout était comme prémédité. Il y avait toujours comme quelque chose, tu sais, parce que, par exemple, on recevait pas tout notre courrier pendant un bout de temps, tu sais, puis à la régie du logement, tu sais, on a comme manqué des dates d'audience à cause de ça parce qu'on recevait pas nos convocations. Et puis, la juge, tu sais, on avait partagé ça à la juge qui avait dit à M. Benhamor, là, il faut qu'ils reçoivent leur courrier, c'est un droit, blabla.
Expliquez-moi là, ce qui s'est passé. Pourquoi vous ne receviez pas le courrier?
Encore là, je ne sais pas, mais la boîte aux lettres était facilement accessible. C'était au deuxième étage. Nous, on était au rez-de-chaussée. C'était une boîte aux lettres de métal qui peut être débarrée par une autre personne.
Parlez-moi d'une autre saga que vous avez vécue là, dans cet immeuble-là, celle des loyers. Les chèques de loyer n'étaient pas perçus, n'étaient pas encaissés.
Non, c'est ça, exactement. Alors, on a dû faire appel au tribunal administratif du logement, qui était la régie du logement à ce moment-là, pour avoir le droit de payer notre loyer. Alors là, je peux vous dire que on ne croit pas que les locataires cherchent à payer leur loyer au point d'aller voir un juge pour. Mais
juste pour être clair, là, vous êtes allé à la régie du logement pour payer votre loyer.
Pour payer notre loyer parce que M. Benhamor ne voulait pas encaisser notre loyer, nos chèques ou notre argent.
Pourquoi vous pensez qu'il ne voulait pas encaisser les chèques?
Parce qu'il cherchait à trouver moyen de nous faire, de nous mettre à la porte et puis de dire qu'on ne payait pas alors qu'on payait.
Est-ce que l'immeuble était sinon généralement bien entretenu, sécuritaire de ce que vous avez vécu de 2009 à 2012?
Bien entretenu, ça, j'ai pas vu tant de changements, là, tant que ça. Et je veux dire, je crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'entretien qui a été fait, ni sécuritaire, du point de vue où j'ai aucun souvenir d'installation d'extincteurs ou même d'alarme d'incendie dans les corridors ou de lumière qui aurait pu s'allumer parce que c'était quand même un grand bâtiment. Il y avait il y avait 14 appartements, donc plus de 15-20 locataires.
Sur combien d'étages?
Sur 3 étages. Écoutez, excusez.
À peu près, là.
Parce que je vous dis ça parce que, sincèrement, moi, j'ai vécu à un étage et puis j'ai pas connu les autres autant, là.
Mais il est question de logement, Catherine Joyal, qui n'avait pas de fenêtre sur l'extérieur, ce qui est contraire au code du bâtiment, semble-t-il. Vous, est-ce que vous aviez eu connaissance de ça?
Non, moi, j'ai pas eu connaissance de ça. Dès que je suis partie, je pense qu'il y a eu des changements qui ont été faits dans la configuration des appartements. Alors, je le sais que moi, après être partie, j'ai parlé à mon ancien voisin qui m'avait dit « Ah, maintenant, ton appartement, c'est des Airbnb. »
Des Airbnb.
Ouais, il m'avait dit « C'est des Airbnb. » Il m'avait pas dit « Ah, il y a un locataire qui loue ça des fois. » Tu sais, c'était pas nuancé, là. C'était clairement des Airbnb. Alors, là, c'est pour ça que, tu sais, je veux dire, on se doute, je sais pas c'est qui gérait ça, si c'était un locataire ou s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre en arrière de ça. Mais je sais qu'ils ont dû faire des séparations supplémentaires à l'intérieur même du logement pour pouvoir aménager plus de place, pour pouvoir loger plus de monde, faire plus d'argent.
Pour maximiser le revenu qu'on peut tirer de chaque pied carré.
Oui, absolument.
OK. Avant de vous laisser aller, vous avez rendu hommage à Camille Maheu, qui était une de vos anciennes voisines dans cet immeuble qui est passé au feu. Madame Maheu est la première personne qui a été identifiée aujourd'hui. Comment vous avez appris qu'elle avait probablement péri?
Écoutez, c'est par l'entremise des journaux, des médias, j'ai vu que ses amis disaient qu'elle était portée disparue. Puis moi, j'avais le souvenir de la dame qui habitait à l'étage supérieur. Je trouve ça vraiment tragique. Tu sais, j'envoie mes plus sincères condoléances, mes plus sincères sympathies à toutes ses amies, à ses proches. Mais aussi, tu sais, c'était une dame qui était artiste, qui était engagée. Moi, je la connaissais comme étant ma voisine. Tu sais, je peux pas vous en dire plus, mais tu sais, je sais qu'elle a fait beaucoup de choses au courant de sa carrière et au courant de sa vie.
Merci d'avoir été avec nous pour nous expliquer votre réalité de 2009 à 2012 dans cet immeuble. Merci. C'était Catherine Joyal, ancienne résidente de cet immeuble qui a brûlé. On sait qu'il y a beaucoup d'anciens locataires qui avaient des griefs assez importants contre le propriétaire, Émile Benhamour.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Donc, voici le contexte. Depuis plusieurs semaines, quelques mois, il y a deux médias canadiens anglais, le Globe and Mail et Global News, qui sortent au compte-gouttes des histoires qui proviennent de la communauté du renseignement canadien. Là, on peut se douter que ça vient du Service canadien de renseignement et de sécurité. Des allégations, des faits troublants là, sur l'ingérence chinoise, des tentatives que les Chinois font pour influencer le processus politique électoral canadien. Et hier, Global News, sur la foi de sources anonymes, a révélé que le député libéral Han Dong avait eu, d'une part, des contacts avec le consul chinois à Toronto et qu'il aurait dit au consul chinois à Toronto que la Chine devrait retarder la libération des deux Michaels. Ce sont deux citoyens canadiens qui étaient détenus arbitrairement par les Chinois. Ça a eu l'effet d'une bombe à Ottawa. Monsieur Dong siège désormais comme indépendant, n'est plus dans le caucus libéral. Il nie avoir conseillé le consulat chinois sur les deux Michael. Le bureau du premier ministre Justin Trudeau lui dit on savait même pas qu'il parlait au consul chinois de Toronto. Guy Saint-Jacques est l'ancien ambassadeur du Canada en Chine. Monsieur Saint-Jacques, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Comment vous avez réagi hier soir en prenant connaissance des révélations de Global News?
Ben, j'ai été très surpris parce que je me suis dit, si ces allégations-là sont fondées, c'est un geste qui est complètement inadmissible, inexcusable et inapproprié. Puis comment quelqu'un peut s'être permis de prendre l'initiative d'aller discuter du cas des deux Michael avec le consul général chinois à Toronto, alors qu'on était en pleine crise avec la Chine. Ça faisait 2 ans et 2 mois que les deux Michael avaient été arrêtés, de même que Mme Meng. Et puis, j'essayais de revoir le calendrier. Et en fait, c'est le mois suivant, le 19 mars, que Michael Spavor a comparu en cour, tandis que Michael Kovrig, ça a été 3 jours plus tard, le 22. Et donc, de mon point de vue, c'est quelque chose, un comportement inexplicable, puis qui probablement, si c'est confirmé, ça démontrerait qu'il y avait des liens soutenu entre M. Dong et le consulat chinois à Toronto.
Est-ce que je me trompe ou il y avait déjà eu des soupçons que M. Dong était une sorte de pion, volontaire ou pas, de l'État chinois?
Ben, je pense que c'est sans doute ce qui a amené le bureau du premier ministre à demander à M. Dong hier soir de quitter le caucus parce que il n'y a pas de fumée sans feu. Il y avait eu d'autres révélations il y a quelques semaines à l'effet que le consulat chinois avait aidé M. Dong à devenir le candidat libéral en envoyant des autobus avec des étudiants chinois qui avaient seulement à dire qu'ils habitaient dans la circonscription pour pouvoir voter. Certains avaient le nom du candidat écrit sur leur poignet. Et d'autre part, il semble que M. Dong se soit absenté de la Chambre des communes au moment où le vote sur le génocide au Xinjiang avait lieu. Et donc, dans les circonstances, moi, je pense que tout ça est très malheureux pour sa réputation, son avenir politique, mais là, dans les circonstances, si tout ça à nouveau est prouvé, ben sa place n'est plus au Parlement.
Monsieur Saint-Jacques, ce qui est allégué, c'est que le député Dong aurait conseillé les Chinois, disons, sur le climat politique canadien. Faites pas ça parce qu'il va avoir tel effet. Ça, jusqu'au moment où on entendra la conversation, là, où quelqu'un sortira, il dira à visage découvert, prenons ça avec un grain de sel. Le fait qu'un député ait des contacts à l'insu du bureau du premier ministre avec le consulat chinois, est-ce que ça, en soi, c'est un problème?
Bien, je dirais dans des circonstances et avec un pays normal, ça serait pas nécessairement un problème parce que c'est clair que les diplomates étrangers qui sont en poste au Canada essaient d'être influents, puis il y a toujours toutes sortes d'histoires à discuter avec des parlementaires, surtout dans les cas où il y a des groupes d'amitié entre parlementaires, puis il faut organiser des visites. Mm-hmm. Dans ce cas-ci, cependant, c'est une toute autre affaire, parce que là, on est dans une période extrêmement difficile sur le plan politique avec la Chine depuis, en fait, depuis décembre 2018. C'est-à-dire que ça fait 4 ans et demi. On a payé un fort prix en 2019 avec la chute de nos exportations parce que la Chine voulait nous punir. Et moi, je sais que, à cause de mes fonctions autrefois, que il y a des parlementaires à Ottawa, quelques députés et aussi quelques sénateurs qui ont des contacts assez fréquents avec l'ambassade ou avec surtout avec le consulat à Toronto. Et puis ça, je sais que ça soulève beaucoup d'inquiétudes de la part du SCRS. Et en fait, toute cette histoire-là auquel on assiste depuis quelques semaines, c'est parce que je pense qu'on est en train de voir une guérilla entre le SCRS ou, en fait, d'autres personnes, parce que, comme le disait M. Vigneault, le directeur du SCRS, la fuite ne vient pas nécessairement du SCRS lui-même, parce que les documents qu'ils avaient produits ont été partagés, je pense, entre 6 ministères et agences, divers bureaux. Mais moi, sur la base de conversations que j'ai eues avec des gens à Ottawa, il y a beaucoup de mécontentement sur le fait que le gouvernement n'a rien fait, ou très peu, malgré tous ces rapports-là qui disaient « Attention, la Chine s'ingère dans notre processus politique, la Chine aide à choisir des candidats, il y a des transferts d'argent illicites, il y a du personnel qui est payé pour venir travailler sur les campagnes. » Et dans toute cette affaire-là, ben c'est ça, le gouvernement, M. Trudeau, a apparu jusqu'ici comme juge et parti, et puis on a besoin d'avoir une enquête qui est complètement impartiale pour tirer tout ça au clair et puis s'assurer que notre processus démocratique ne sera pas entaché à nouveau à l'avenir.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Saint-Jacques. Bonne soirée.
Bonne soirée aussi. Au revoir.
À la prochaine. C'était Guy Saint-Jacques, l'ancien ambassadeur canadien en Chine. Je me tourne maintenant vers Rodolphe Osny. Rodolphe, d'abord, c'est qui ce député-là, M. Dong?
Ben, en fait, c'est un député de la banlieue de Toronto qui a des origines chinoises. Et comme M. Saint-Jacques l'a bien dit, l'ancien ambassadeur Saint-Jacques, ça faisait plusieurs fois qu'il y avait des détails qui étaient sortis. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que on apprend par, bien sûr, des informations qui ont été sorties par peut-être les services d'enseignement, c'est que sa nomination à la base, elle n'était pas correcte.
Ouais.
Et que peut-être...
On a pacté des autobus avec des étudiants chinois, semble-t-il.
Oui.
Et il y a des liens qui remontent au consulat.
C'est ça. Ouais. Mais il paraît que ça a été peut-être informé au bureau du premier ministre.
Qu'il le savait.
Et c'est pour ça que, si tu vois, les dernières semaines, les conservateurs, le Bloc, ont voulu faire que Mme Telford, la chef de cabinet du premier ministre, vienne témoigner.
Okay. C'est pour
parce
ça.
Que, il disait, vous deviez savoir pourquoi est-ce que vous l'avez pas disqualifié, pourquoi vous l'avez laissé se présenter, pourquoi vous l'avez laissé être élu, et encore plus, comme M. Saint-Jacques l'a encore dit, il y a eu un vote sur le génocide des Ouïghours à la Chambre des communes.
Ouais.
Et comme par hasard, il y avait 3 votes. Il était là pour le premier vote. Il n'était pas là pour le deuxième sur le génocide de la Chine. Hop, surprise, il était là pour le 3e vote. Il s'est vraiment abstenu pendant ce vote-là. Donc, ça faisait beaucoup d'informations qui sont sorties. Puis, j'ai vu, et tu te souviens qu'en fait, il y a le service de l'enseignement où quelqu'un qui donne ces informations a écrit une lettre ouverte dans le Globe and Mail.
Anonymement.
En disant, ce que je suis en train de vous le dire, je risque la prison. je risque la prison pour ce que je suis en train de dire. Et le gouvernement Trudeau, quand il y a eu cette histoire qui est sortie à la fois du Globe and Mail et du Globe et de Global,
c'est le CRS qu'on a attaqué.
C'est ça, on a dit faut qu'on trouve cette taupe. Puis moi hier quand j'ai vu cette nouvelle, je me suis dit c'est invraisemblable. J'avais de la difficulté à l'imaginer que tu es en train de te dire que les deux Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, qui ont passé 1000 jours, et que peut-être, quelqu'un aurait dit, vous savez quoi, il devrait peut-être rester plus longtemps pour des fins partisanes, de la partisanerie, parce que c'est ça, en fait, des informations, c'est que...
Dong aurait dit, là, selon les sources anonymes de Global News, aurait dit aux Chinois, aux consuls chinois, regardez, si vous les libérez maintenant, ça va avantager le Parti conservateur.
Exactement. Donc, moi, la question que je me pose, c'est, de façon vraiment globale, là, au Canada, puis au Parti libéral, est-ce qu'ils avaient vraiment une taupe? Puis ça, est-ce qu'ils ont vraiment une taupe qui est là, qui était un agent presque, parce qu'un agent chinois? Deuxièmement, est-ce qu'on parle de trahison? Parce que j'ai regardé la définition de trahison. Et là, il y a deux définitions. C'est extrême déloyauté à l'égard de son pays, de son gouvernement et de ses institutions. Et il y a aussi écrit sans autorisation légitime, communiquer à un agent d'un État étranger ou mettre à disposition d'un tel agent des renseignements.
Tu sais, Rodolphe, si le député de Don Valley North, là, oui. les députés oui. de Don Valley North, a des contacts avec le consul de Belgique,
oui.
on se comprend que c'est pas très problématique.
Tout à fait. Puis
moi, Par contre, avec la Chine présentement, sachant les jeux que joue la Chine, les pressions que font les Chinois sur le Canada, chaque conversation devient dangereuse.
Mais oui. Et écoute, moi, j'ai été au gouvernement. C'est pas normal. On n'a jamais vu un député être utilisé d'une façon comme ça en termes d'être un diplomate pour, tu sais, backchanner. Tu sais, des fois, on ouvre des canaux de communication officiels, puis des canaux qui sont moins officiels, avec des gens qui ont peut-être des fois, tu sais, des relations, des choses comme ça, pour essayer d'échanger des informations. Mais ce député-là, c'est certain qu'il n'était pas en train d'agir officiellement au nom du gouvernement du Canada.
Le bureau du PM l'a dit là, nommément. Il n'était pas un canal officieux.
Tout à fait. Et deuxièmement, il n'était pas en train d'être pour les intérêts du Canada. L'intérêt du Canada était de libérer le plus rapidement possible ces deux citoyens canadiens.
Tu as été au gouvernement, tu as travaillé au commerce international. Là, tout ça arrive alors que Joe Biden va se poser au Canada, c'est peut-être même déjà posé au Canada pour une visite de 36 heures. Comment les Américains vont réagir?
Ben, ça va être la grande question, parce que c'est certain qu'un journaliste canadien, lorsqu'il va avoir la conférence de presse, vont demander une question au président américain. Moi, je vais être très surpris. J'ai envie de savoir comment ils vont répondre à cette question-là, parce que M. Trudeau continue à refuser d'avoir une enquête publique. Encore aujourd'hui, à la Chambre des communes, il y a eu un vote de tous les trois partis d'opposition qui ont été d'accord, le Parti libéral, le Bloc et le NPD, pour demander ça. Puis tu sais, Patrick, c'est tellement une grosse nouvelle que, tu sais, nous, en communication, dans les médias, on utilise des fois beaucoup d'hyperbole. Puis il y a de la partisanerie en politique. Oui, oui. Je vais te faire juste écouter le clip aujourd'hui pour te montrer à quel point le ton à la Chambre des communes aujourd'hui était tellement sérieux. Il n'y a pas eu il n'y avait pas de montée ou
pas
quoi que ce soit.
Toge.
Non, parce que tout le monde est tellement estomaqué que ça peut être une vraie nouvelle. On va le jouer.
D'un gouvernement qui refuse de donner leur juste sur des faits précis et sur des faits troublants. Pour la 24e fois, nous allons poser à nouveau la question pour que les Canadiens aient une information claire et précise. À quelle date le premier ministre a-t-il été informé des allégations qui ont été diffusées hier sur Global à l'effet qu'un député libéral a voulu retarder la libération de deux Michael à des fins de politique partisane?
Il faut le dire, Rodolphe, à chaque fois que M. Dong a été inquiété par des révélations médiatiques, Justin Trudeau l'a défendu bec et ongles.
Tout à fait.
C'est quasiment s'il disait pas que c'était du racisme que de sous-entendre qu'il avait pu être manipulé par les Chinois.
Ben, je crois que c'était très limite où il disait qu'en fait, si on le critiquait, c'était un sentiment contre la communauté sino-canadienne. Et si tu remarques pourquoi j'ai voulu te faire écouter ce clip-là, c'est qu'aujourd'hui, pendant la période des questions, à la fois le Bloc et les libéraux et les conservateurs ont posé des questions sans partisanerie, vraiment dans le ton que tout le monde est tellement choqué, puis on se dit, on a vraiment, c'est tellement grave que c'est, ça en devient invraisemblable. Il faut une enquête publique. Je comprends pas comment le gouvernement continue à s'entêter. Et c'est pas le pauvre ancien gouverneur général, M. Johnston, qui est pris avec cette patate chaude.
Il comme devrait rapporteur aussi, spécial.
Ouais, le rapporteur spécial. Il devrait aussi être très rapide puis demander une enquête.
Merci, Rodolphe. On va s'en reparler. Je pense que c'est une histoire qui va encore accoucher de plusieurs révélations.
Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est du contenu créé pour vous. C23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.